Bonjour et bienvenue dans votre émission bimensuelle Les Métiers de l'Ombre, qui parle de ces héros silencieux qui travaillent dans l'ombre. Le mercredi, en semaine impaire, à partir de 13h, sur Radio G 101.5 FM. Mais alors, qui sont-ils ? Eh bien, il s'agit de ces personnes qui ont des métiers peu connus du grand public, mais dont l'activité est cruciale et indispensable à notre vie de tous les jours. Ces personnes qui exercent ces métiers travaillent souvent en coulisses et leur contribution est souvent méconnue ou sous-estimée. Derrière chaque grande marque, chaque enseigne, personnalité, entreprise ou association, se cachent de nombreux individus que l'on appelle les petites mains, sans qui le travail, la qualité ou encore l'image de ces entités seraient beaucoup moins reconnues. Alors prenons un instant pour imaginer notre quotidien sans ces métiers essentiels. Que ce soit prêt de plume littéraire, accessoiriste, technicien de maintenance, agent de nettoyage, chargé de production audiovisuelle, scénographe et bien d'autres encore, rencontrons tous ces métiers de l'ombre en invitant un de ces mystérieux individus toutes les deux semaines au micro de Radio G. Vous nous écoutez en DAB+. Sur internet sur radio-g.fr. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une invitée spéciale, une véritable héroïne de l'ombre du monde audiovisuel numérique. Il s'agit de Solène Chupin, responsable de production audiovisuelle pour un youtubeur angevin. Bonjour Solène, comment vas-tu ? Merci d'être avec nous. Aujourd'hui.
Bonjour, enchantée, merci en tout cas de m'accueillir sur Radio G.
Eh bien avec plaisir. Solène, du coup, tu es originaire d'Angers ?
Oui, tout à fait, j'ai grandi à Angers, à Saint-Léger-des-Bois pour être très précise, donc je suis originaire d'Angers.
Ok, donc juste à côté. Et tu as 25 ans, c'est bien ça ?
Tout à fait, c'est très juste.
Ok, eh bien écoute, Solène, aujourd'hui nous allons parler de ton métier, mais surtout, je voulais savoir, peux-tu nous donner la définition en soi de ton métier qui est chargé de production audiovisuelle ? Parce que pour nos auditeurs, il faut qu'ils comprennent en quoi consiste ce métier. Et donc du coup, en quoi consiste le métier de chargé de production audiovisuelle, Solène ?
Alors il y a plein de définitions du métier de chargé de production audiovisuelle, donc je vais donner plutôt la mienne. Pour moi en tout cas, une chargée de production audiovisuelle, c'est une personne qui va être surtout en charge du projet, qui va être chef de projet dans le domaine de l'audiovisuel. Mmh. Et ça va être vraiment de s'occuper de l'ensemble d'un projet, de A à Z, en passant par des moyens techniques, les moyens humains, c'est vraiment de tout booker pour que le projet arrive à sa finalité suivant un cahier des charges qui est prédéfini en amont.
Ok, donc du coup ça a l'air d'être un métier avec plein de responsabilités. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier toi ?
Ça fait longtemps, je dirais que ça fait au moins 5 ou 6 ans maintenant.
Ah oui ?
Oui, ça fait quand même longtemps. Après sur le monde de YouTube, on dit souvent que les années passent beaucoup plus vite, donc on a un ressenti souvent de fois deux. Mais oui, c'est un métier avec plein de responsabilités, vu que les projets sont souvent très conséquents.
Mmh. Donc, et j'imagine très fréquent, parce que YouTube, c'est une plateforme qui agit beaucoup et vous êtes nombreux dessus.
C'est ça, tout à fait. YouTube, c'est vraiment un nouveau canal, pas un nouveau depuis une dizaine d'années maintenant. Et on est assez nombreux, il y a beaucoup de youtubeurs, youtubeuses sur la plateforme. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de productions à produire pour suivre ce rythme qui est assez frénétique et de toujours produire du contenu qui est de plus en plus nouveau.
Et aguicheur, j'imagine.
Exactement. Oui. On a vraiment cette compétition avec les autres créateurs de contenu pour toujours proposer des contenus qui sont nouveaux, attrayants, qui changent, qui donnent envie aux viewers. Donc oui.
Eh bien, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler de tous ces concepts. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment en es-tu arrivé là ? Quel est ton parcours d'études pour faire le métier de chargé de production audiovisuelle ?
Alors, moi, de mon côté, j'ai surtout un parcours de chef de projet, pas forcément dans l'audiovisuel. Si on repart à la toute base, j'ai fait un DUT, donc un DUT technique de commercialisation sur Angers, à l'IUT d'Angers. Et ensuite, après, je suis partie au Canada faire un DUT en licence des affaires. Puis après, je suis revenue en France, à Bordeaux, pour faire un master management de projet. Donc, le lien de toutes ces études, c'est surtout la gestion de projet.
Okay.
C'est pour ça que je dis souvent que chargé de production audiovisuelle, oui, il y a le mot audiovisuel, mais à la toute base, c'est aussi de gérer un projet, de savoir l'amener du début jusqu'à la fin. Donc, j'avais pas forcément de compétences ou de connaissances dans le domaine de l'audiovisuel. Et j'ai vraiment appris sur le tas avec mes toutes premières expériences et mon tout premier stage. Et c'est comme ça que a débuté
l'aventure.
Exactement, oui.
Et du coup, mais il y a bien un parcours classique où tout le monde qui fait ce métier a un parcours un peu atypique comme toi?
Non, pas forcément. Après, ça va vraiment dépendre de chacun. Il y a quand même des parcours un peu plus spécifiques. Il y a des BTS, par exemple, dans le domaine de l'audiovisuel,
okay,
qui sont de plus en plus récents. Je sais que, par exemple, sur Angers, il y a l'école Studio M qui propose ce genre de formation.
Mm-hmm.
Donc, il y a des BTS précis en chargé de production, ou même des licences. Mais après, avec l'envie, de la passion, on peut se former aussi au domaine de l'audiovisuel.
D'accord. Oui, je vois. Et même dans les services communication, j'imagine, d'entreprises ou autres. Aujourd'hui, vu qu'on doit se manifester de plus en plus sur les réseaux, on est de plus en plus à créer des produits audiovisuels. Donc, au final, limite, on se forme sur le tas et il y a des événements autour. Et donc, du coup,
totalement,
c'est comme ça que le métier s'apprend au fur et à mesure. Mais c'est pas donné à tout le monde. Du coup, suite à tes études, tu es rentré donc dans le milieu de l'audiovisuel, comme tu l'as dit, mais surtout dans YouTube. Comment ça s'est passé?
Alors, ça s'est vraiment fait de manière par hasard. Pour l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement, ils cherchaient un poste parce qu'on avait un énorme événement à créer et l'effectif de l'entreprise n'était pas assez gros. Donc, ils cherchaient une personne pour vraiment venir combler juste la charge humaine pour ce projet.
Ok.
Et du coup, j'ai candidaté parce que je connaissais la personne qui était en poste. Et finalement, j'ai été prise pour ce projet-là. Donc, ça a commencé plutôt par un stage pour faire ce gros projet.
D'accord.
Et ensuite, de fil en aiguille, je suis restée un an et demi. Je suis partie, j'ai repris mes études.
Ah oui.
Et finalement, le lien, la passion, il est resté. Parce que même pendant mes études, je travaillais à côté toujours pour ce créateur de contenu.
D'accord.
Et je suis revenue à la fin de mes études parce que c'était quelque chose qui me faisait vibrer comme métier et j'avais envie d'y être.
Ok. Mais du coup, tu es chargée de production donc sur YouTube. Et est-ce qu'il y a une différence avec le chargé de prod du cinéma ou de la télé?
Oui, tout à fait. Vraiment, YouTube, c'est vraiment, comme j'aime le dire, un monde qui est à part. On ne fait pas pareil que la télé ou le cinéma, et encore plus sur le monde de YouTube. En fonction des créateurs de contenu, les chargés de production, le travail et les différentes missions sont également différentes. C'est-à-dire qu'on prend un créateur de contenu, qu'il soit par exemple à Paris ou sur un autre secteur de divertissement, les missions ne vont vraiment être pas du tout pareilles, le rythme de travail, ça va vraiment être totalement différent. Donc encore plus avec le cinéma et la télévision, même si il y a des choses qui se ressemblent sur les savoir-être, les savoir-faire ou la généralité, mais on reste quand même sur YouTube, qui est un monde à part et qui est en ligne, qui est aussi... C'est quand même différent.
Oui, parce qu'on a cette image de YouTube avec les YouTubeurs dans leur chambre, dans leur studio, mais plus maintenant en soi. Maintenant, ils ont tous des gros décors, des équipes techniques assez nombreuses, des entreprises, des sociétés de production. Donc du coup, ça se rapproche plus de la télé et du cinéma, c'est vrai aujourd'hui.
Oui, totalement. Alors après, sur YouTube, c'est ce qui fait la beauté de YouTube, c'est qu'on arrive à trouver de tout. Il reste encore des créateurs de contenu qui sont dans leur chambre, qui font tout eux-mêmes, en passant par écrire leur concept, le tourner, faire leur technique, le monter derrière, comme il y a maintenant, comme dans mon cas, des sociétés qui sont vraiment établies, où il y a une grosse équipe qui est derrière, avec des décors, où vraiment c'est très riche. Ça va vraiment dépendre... du créateur et aussi de sa communauté et de son envie aussi, de ce qu'il a envie de proposer à sa communauté.
Oui.
Mais on a de tout et ce qui est bien, comme ça chaque personne peut se retrouver derrière une vidéo YouTube.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup, par rapport au cinéma, pour bien cibler, parce que quand on imagine, quand on voit un générique au cinéma, j'ai l'impression que le producteur délégué, on va dire, on va l'imaginer avec le gros cigare dans le fauteuil, celui qui apporte l'argent et les fonds pour le projet. Après, le producteur exécutif, je dirais que ce serait plus ce qui se rapproche au tien, c'est-à-dire celui qui est sur place, sur le plateau. Et ensuite, les coproducteurs, c'est ceux qui amènent les fonds, mais qui ne, entre guillemets, participent pas forcément au projet.
C'est ça, totalement. Nous, on va être surtout sur de la production exécutive. Donc, il va y avoir en amont un gros travail de préparation. Mais après, bien évidemment, la mise en place sur le plateau et de la prod purement exécutive plateau où il faut mener à bien le tournage en question.
Oui, c'est ça. Et pour toi, du coup, il y a des compétences spécifiques à avoir pour faire ce métier ?
Oui, bien sûr. Après, je dis souvent que ce métier est un métier passion. On arrive souvent au métier de chargé de production audiovisuelle, en tout cas pour mon cas, par passion, parce qu'on aime ce métier et on est un petit peu voué à le faire. Mais il y a bien sûr des compétences. Typiquement, la gestion du stress est quelque chose de très importante. Nous, on travaille dans des conditions où les délais sont très, 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 très courts.
Ouais.
Donc, il ne faut pas être amené à stresser, ou en tout cas, il faut être amené à savoir gérer son stress. Et il y a plein d'autres, il faut être créatif, il faut être sérieux, il faut être organisé. C'est important parce que souvent on a plusieurs projets, donc projet égale tournage, on a plusieurs tournages en même temps. Donc il faut réussir dans son cerveau à compartimenter l'ensemble des tournages pour pas s'y perdre et à pouvoir les tenir.
Oui, dans les temps.
Exactement, oui.
Et donc, si j'ai bien compris, toi tu es responsable par contre de production, c'est bien ça ?
C'est ça. Totalement. J'ai commencé en étant chargée de production, parce qu'on était une équipe beaucoup plus petite, on n'était que deux début en tant que chargée de production. Et au fur et à mesure que les productions ont grossi, on avait vraiment cette envie, du coup, avec le créateur de contenu, de créer une équipe et un petit peu de hiérarchiser les niveaux, parce que ça allait un peu dans tous les sens. Du coup, je suis passée responsable de production. On a embauché aussi pour pouvoir être capable d'assumer ces tournages qui devenaient de plus en plus gros.
Mmh.
Donc maintenant, on est quand même une petite équipe, mais qui est quand même belle. On est quatre. Donc, je suis avec trois super collègues en termes de chargés de production et moi-même. Et après, bien évidemment, il y a aussi toutes les autres équipes à côté, parce que dans notre cas, la production, on travaille beaucoup également avec la régie, la post-production. En tout cas, sur YouTube, c'est une grande famille et on travaille tous ensemble pour que les projets soient amenés à être bien réalisés, que ce soit au début, en passant par la première écriture du projet jusqu'à la fin, la miniature de la vidéo. Donc, c'est vraiment un énorme travail d'équipe.
Oui, du début jusqu'à la fin, en fait.
Jusqu'à la fin, oui.
Jusqu'à la publication.
Jusqu'à la publication le dimanche, quand la vidéo est en ligne.
D'accord. Et donc, pourrais-tu, par exemple, nous décrire une journée type pour toi, au travail ?
Alors, ça, c'est une bonne question. Il n'y a pas forcément de journée type. C'est pour ça que j'aime ce travail aussi. C'est que toutes les journées sont différentes, étant donné que les projets sont différents. On va pouvoir très bien être sur un projet de documentaire, comme la semaine d'après, réaliser un cache-cache, et comme la semaine d'après, faire un tournage avec Ariane. Enfin, c'est dans tous les sens. Donc, il n'y a pas forcément
Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Le métier est vraiment... Ça va dans tous les sens. Depuis que je fais ce travail-là, j'ai dû jamais faire la même journée, alors que ça fait quand même 5-6 ans que je le réalise. Ça va dépendre aussi si dans notre semaine, on a des tournages ou pas.
Okay.
Mais typiquement, si on prend une semaine, on va toujours commencer à lundi à faire un point avec l'ensemble des équipes.
Mm-hmm.
Du coup, ça revient à ce que je disais à l'instant, avec la production, la régie, pour se dire, OK, cette semaine, on a ce tournage-là. On revoit si vraiment tout le monde est bien au clair sur ce que nous allons tourner, quels vont être les moyens techniques, que ce soit le son, le placement des caméras, à quelle heure va débuter le tournage, combien de temps ça va durer, etc. Donc, on va vraiment faire une grosse phase au début de mise en lumière du tournage. Et après, on va prendre les projets et avec mon équipe, on va se dire, OK, quelles sont les priorités de la semaine, et hop, on va y aller.
Donc ça, du coup, c'est, on va dire, le démarrage. Par exemple, tu fais ça à chaque début de projet, en soi, pour citer l'organisation, l'ordre chronologique d'une production YouTube. Ça fonctionne comme ça, vous démarrez, vous avez le concept, j'imagine.
Totalement. On a souvent un tout petit cahier des charges. Après, ça va dépendre de la grosseur du projet. Des fois, des projets sont très, très conséquents. Donc, on va avoir un cahier des charges beaucoup plus lourd pour vraiment essayer de faire ce que le créateur veut.
Oui, essayer de respecter au mieux ce qu'il a en tête.
Mais la priorité pour moi, souvent au début d'un projet, c'est que tout le monde ait les mêmes infos et qu'on commence dans la bonne direction, et que vraiment ces infos sont cruciales, qu'elles soient partagées et que tout le monde ait les mêmes, vu que souvent les projets, on est à 4-5 projets par semaine à travailler en même temps. Donc on a vite fait de hop se tromper ou de confondre. Donc au moins hop.
Et les temps de pré-production sont très courts, j'ai l'impression.
Oui, souvent. Après ça va dépendre. On essaye de, c'est un petit peu le cœur du métier de prendre de l'avance et de toujours pouvoir préparer les projets le plus en amont possible. Après on est sur YouTube. YouTube, nous on est sur une publication tous les dimanches, toutes les semaines. Donc on a quand même une diffusion assez conséquente. On fait pas de pause, c'est très rare. On fait, je crois, il me semble qu'une pause un dimanche dans l'année. Donc c'est
ah oui, c'est vraiment
c'est très peu. Clair. Donc il faut pouvoir assumer ce rythme de publication. Donc ce qui veut dire qu'il faut pouvoir tourner beaucoup.
C'est ça.
L'avant passant l'autre. Donc oui, souvent il faut bien préparer.
Vous écoutez Les Métiers de l'Ombre sur Radio G en 101.5 FM.
On dit aussi que YouTube devient presque, pour les jeunes aussi aujourd'hui, une alternative à la télé. Et à la télé, ce qu'on voit et comment ça marche, même à la radio, c'est aussi par le biais de publicité. Donc du coup, je me dis, aujourd'hui, on voit aussi de plus en plus de publicité sur YouTube. Comment font les marques pour justement rentrer en communication avec ces influenceurs? Comment ça fonctionne pour que les marques puissent faire apparaître leurs produits dans les vidéos de ces influenceurs? Ça aussi, c'est toi qui gères, par exemple?
Alors non, pas du tout. Là, ça va dépendre plutôt d'une agence commerciale qui va gérer. En fait, on dit souvent que cette agence-là, elle gère les marques et le créateur. Elle vient faire tampon au milieu.
Comme un agent artistique pour
Exactement,
un comédien.
C'est totalement ça. Parce que l'idée vraiment, c'est que le youtubeur reste dans sa créativité, son tournage et qu'il vienne pas être touché par tous ces éléments-là qui sont autour. Donc souvent quand une marque par exemple elle va voir cette agence-là. Après ça va dépendre aussi des youtubeurs. Il y a des youtubeurs qui font tout en interne où les marques les contactent directement.
D'accord, oui.
En tout cas nous dans notre cas les marques contactent d'abord l'agence. L'agence fait le suivi du dossier, voit OK, est-ce que c'est un projet qui est-ce que c'est une marque qui peut être intéressée, est-ce qu'on a envie de parler de cette marque-là aussi, c'est important. On choisit également avec qui on travaille, c'est primordial.
L'image qui s'associe en soi.
Totalement, et c'est primordial de travailler pour des gens avec qui on a confiance, avec qui on aime les produits, qu'on les utilise, et pas faire de la publicité pour des choses auxquelles on n'utilise pas ou auxquelles on ne croit pas. C'est vraiment quelque chose de très 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 important. Et ensuite, du coup, cette agence va travailler avec ces marques-là pour présenter OK, le concept ça va être ça, comment vous voulez intégrer la vidéo. Et moi dans mon cas ça va plutôt être sur la fin du suivi, c'est-à-dire OK, cette marque-là veut sponsoriser cette vidéo-là.
D'accord.
Donc on va nous dire ça va plutôt être en début de vidéo, des fois il va falloir faire des vidéos qu'on appelle des vidéos dédiées. Donc, c'est-à-dire que la marque va avoir une présence tout au long de la vidéo et pas au début.
Comme une canette de coca par exemple ou autre produit posé sur une table par exemple, tout au long de la vidéo.
En fait, on a deux types de sponsors un petit peu. On peut être sur une vidéo dite d'intégration, donc c'est-à-dire que la marque va être présente en début de vidéo, souvent dans les premières minutes, une minute 30 à 2 minutes, et à la fin, du coup, à la fin en remerciement. Donc soit ces vidéos dites d'intégration, soit on va avoir les vidéos dites dédiées. Et là, les vidéos dédiées, c'est des marques qui sont présentes tout au long de la vidéo. Donc voilà, c'est souvent un petit peu les deux. Et nous, notre rôle à la production, c'est de mettre en place ce qui a été convenu entre l'agence et ces marques-là pour que ça se passe bien et pour qu'on puisse avoir une belle mise en lumière
du produit et en même temps
du produit ou ça peut être des services.
D'accord, oui, effectivement, oui, comme on voit souvent NordVPN par exemple.
Exactement, mais c'est vraiment important parce que les productions quand même, vu qu'elles sont de plus en plus grosses, sont sur des budgets de plus en plus gros, ce qui est normal. Il y a beaucoup d'équipes derrière aussi à payer, à rémunérer, vu que nous, dans l'entreprise, on a la chance de tous être en CDI.
Ah oui.
Vraiment, oui, on a des fois cette image-là, mais c'est vraiment une entreprise où tous les salariés sont en CDI. On est beaucoup dans l'entreprise.
Oui, puisqu'on pourrait croire que vous faites appel à des intermittents, par exemple, pour la technique ou autre.
Dans notre cas, pas du tout. Avec d'autres youtubeurs, c'est le cas en fonction de leur organisation, leur mode de fonctionnement, leur mode de rythme de publication aussi. Donc il y a vraiment des coûts de partout, et vu qu'il y a une qualité comme vous le disiez qui doit être mise en place, ça génère des coûts et il faut pouvoir subvenir à ces dépenses pour proposer un travail toujours de qualité. En tout cas, on essaye.
Et du coup, vu qu'il y a beaucoup d'équipes, est-ce que du coup tu pourrais éventuellement me donner les autres petites mains, les autres domaines d'activité dans l'audiovisuel qui sont en activité dans ton entreprise?
Alors, il y en a plein. On a les régisseurs qui sont présents. Donc, tout dans notre cas, ils vont être sur toute la préparation du matériel. Donc, c'est là, par exemple, typiquement une différence avec le cinéma. C'est que nous, à la production, on va faire des missions de régie qui pourraient se retrouver dans le cinéma. Et typiquement, au cinéma, il y a un régisseur qui va s'occuper, par exemple, du catering. Et typiquement, nous, le catering, c'est des choses que nous occupons à la production. Ce n'est pas le régisseur qui s'occupe de ça. Donc, il va y avoir tout ce qui est régie. On a un ingénieur son également. Et après, il va y avoir toute la partie production avec les cadreurs, monteurs, qui sont du coup, qui font le cadrage sur les tournages et qui après passent en post-prod.
Ah oui, ils font le même.
Ils font
double casquette.
C'est ça, exactement. Ils cadrent et hop, après, ils montent leur projet. Donc, ce qui permet aussi d'avoir une continuité. Souvent, ces cadreurs-là, en fait, sont en ligne sur les projets, sur les tournages. Mmh. Et du coup, ils retrouvent leur projet après au montage. Ils y vont. On a aussi des personnes qui font les miniatures, qui sont très importantes aussi. Et où il y a aussi également toute la partie administrative qui nous aide sur ces projets pour le bien du projet.
Ok. Bon, je vais revenir un petit peu en arrière, parce qu'il y a une période quand même, malgré tout, où le pays était à l'arrêt. Il s'agit de la période Covid. Mais on voyait quand même sortir sur YouTube toujours des petites vidéos qui sortaient et qui faisaient du bien aux gens aussi. Toi, tu as travaillé, tu étais en... Comment s'est passé, toi, cette période?
Alors, nous, on a eu la chance de pouvoir continuer à travailler. Donc, toutes les équipes étaient en télétravail.
Okay.
On a chaque équipe, chaque cadreur, par exemple, a ramené son pack d'ordi, etc., de disques durs. Donc, on était tous en télétravail. Mm-hmm. Il y avait juste un studio d'enregistrement qui avait été laissé tout prêt. Il y avait juste appuyé sur 2-3 boutons pour que ça puisse se lancer.
Okay.
Et du coup, on faisait, nous, de notre côté, les productions. Donc, on n'était que sur des petites productions, donc ça va être des productions type de réaction, donc c'est-à-dire que le créateur de contenu est face à des vidéos et il doit réagir à ces vidéos-là.
D'accord.
On appelle ça des vidéos réactions. Mmh. Et donc on a pu faire ces productions-là à distance. Le youtubeur enregistrait et après du coup il envoyait les rushs au monteur qui montait de chez lui.
D'accord.
Donc voilà. Donc on a vraiment fait ce...
Donc il n'y avait pas forcément que le personnel médical qui faisait du bien aux gens, mais aussi les youtubeurs pour se détendre.
Oui, à notre échelle, bien sûr. Mais oui, en tout cas, on a continué à produire du divertissement à notre plus grand bonheur.
Maintenant pour toi, après toute cette expérience, toutes ces années dans la même entreprise et à travailler pour cette personnalité du YouTube français, que pourrais-tu en tirer? C'est toujours un métier passion du coup?
C'est toujours un métier passion. J'en tire que c'est que des gros projets qu'on a réalisés, qu'on travaille vraiment avec une vraie esprit d'équipe. Est-ce que les délais des fois sont courts, les projets des fois sont compliqués, vu les demandes toujours de plus en plus loufoques sur certains sujets. Donc c'est toujours un métier qui est passionnant, qui est riche, qui est très très challengeant, qui nous fait vraiment sortir de notre zone de confort. Et c'est un métier qui est très créatif aussi.
Évidemment.
Et c'est, ça, c'est vraiment super, parce que nous, on a une autonomie totale de la part du créateur qui nous fait totalement confiance. Donc, c'est pour nous un grand bonheur. On peut apporter nos idées, les mettre en place, que ce soit sur l'écriture ou avec typiquement des blagues, ou même sur un décor, ou même sur des propositions de scènes. Enfin, c'est vraiment un métier qui est très créatif aussi et qui est important de le dire.
Voilà.
Parce que souvent, on pense que les chargés de production, c'est plutôt très administratif. En tout cas, dans le monde de YouTube, pas que. Il y a quand même une grosse partie de créativité, une grosse partie de relations avec les prestataires. Donc, c'est aussi important de le souligner. Il n'y a pas que de l'administratif à faire, des autorisations de droit à l'image, des contrats. Mais bien sûr, c'est important, mais il n'y a pas que ça.
Oui, c'est important de le dire, je pense, parce que c'est vrai que même moi, c'est l'image que je pourrais m'en donner du chargé de production, celui qui gère les comptes de la production et qui fait rien d'autre et qui est dans son bureau. Mais en fait, non, c'est aussi une personne de terrain.
C'est ça, ouais, ça c'est vraiment important. Typiquement, je suis pas toute la semaine à mon bureau, absolument pas. Je pense que on bouge vraiment vu qu'on va sur les plateaux. Nous, ça nous arrive de tourner soit dans nos locaux ou soit même sur différents sites en France ou même des fois aussi à l'étranger.
Donc à l'étranger aussi,
beaucoup,
ouais.
Beaucoup en déplacement. Typiquement, cette semaine, j'ai été à mon bureau deux demi-matinées. Donc c'est très peu.
Ah oui, c'est très peu. Oui. C'est,
bon, après, on est un peu sur une semaine exceptionnelle, mais c'est très peu. Vu qu'on tourne, en fait, on est souvent sur le terrain malgré que les équipes changent pour que tout le monde puisse être sur son projet qu'il a l'idée. Mais non, c'est oui, bien sûr, c'est un métier de terrain. En tout cas, pour le monde de YouTube, oui.
Ok. Et quel conseil donnerais-tu du coup aux personnes qui souhaiteraient faire ton métier, que ce soit avec des influenceurs ou dans le cinéma ou encore l'événementiel aussi ?
Je dirais qu'il faut oser. C'est quand même les portes d'entrée sont pas faciles, vu que beaucoup de personnes veulent faire ce métier-là et souvent on sait pas réellement concrètement ce qu'il y a derrière, vu que c'est un petit peu des métiers de l'ombre.
Oui.
On pense savoir alors que finalement il y a beaucoup plus de choses qui se passent derrière. Il faut oser, il faut contacter. Par exemple, typiquement une personne qu'on a embauchée il y a plus de 8 mois, elle nous a écrit, elle en fait une candidature spontanée. Ça c'est très, enfin, on a adoré son profil, on l'a rencontré et maintenant elle est dans nos équipes. Et puis voilà, il faut aussi observer la plateforme, observer les créateurs, ce qu'ils font. Et
en tout cas sur YouTube, mais après de manière générale, je pense qu'il faut être motivé et être quelqu'un d'assez énergique, non, dynamique pour faire ce métier quand même.
Oui, il faut mieux.
D'accord.
Il faut mieux être énergique. Après, ça dépend des profils, mais oui, en tout cas les personnes qui l'ensemble des personnes à qui je pense qui réalisent ce métier sont des personnes plutôt énergiques et dynamiques et qui aiment bien ne pas trop rester en place.
Ça a l'air en tout cas. Bon, pour la part du chargé de production, en tout cas, pour moi, c'est un métier de l'ombre, hein, car son but est de tout coordonner pour qu'un projet puisse être réalisé et donc procurer quelque chose aux spectateurs. Mais contrairement aux réalisateurs, comédiens ou pour ton cas, les influenceurs, on les reconnaît, eux. C'est d'ailleurs on dit j'ai envie de regarder ce film là parce qu'il a été réalisé par tel réalisateur ou parce qu'il y a tel comédien qui joue dedans ou c'est parce que c'est la chaîne YouTube de tel youtubeur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a envie d'assister ou visionner ces projets. Mais le chargé de prod, on en entend peu parler, voire pas du tout. Est-ce que ça te gêne, toi, ce manque de considération ?
Non, pas du tout. Après, je pense que c'est un avis qui est peut-être très personnel. Je fais pas ce métier-là pour être reconnu ou autre. Je fais ce métier-là parce que c'est un métier passion, que j'aime les projets, que j'aime les personnes avec qui je travaille, que j'aime aussi beaucoup ce que le créateur de contenu propose. C'est quelque chose dont je m'identifie. Pour moi, la reconnaissance, ça va passer quand à la fin d'un tournage, le tournage est excessivement bien passé et que je vois dans les regards ou dans les propos des équipes et même des personnes avec qui on travaille, les comédiens, que tout s'est bien passé, qu'ils ont passé un super moment, que c'était génial. Et quand on voit dans les commentaires ensuite de la vidéo que le projet plaît, que les retours sont super et souvent en plus dans les commentaires on a des personnes qui remercient le travail de la production. Pour moi ça veut dire que le taf est bien fait. Et souvent c'est exactement ce que je dis avec les personnes, avec mon équipe, c'est quand le tournage est fini et qu'on voit que des sourires et que ça s'est bien passé, le taf a été bien fait, on peut être fiers de nous.
C'est ça. C'est ça la reconnaissance en soi.
C'est ça. En tout cas, à mon sens, pour moi, ça va être plutôt ça. Et puis, on a aussi beaucoup de reconnaissance de la part avec qui on travaille. Donc, oui, on l'a pas du. On est des petites mains de l'ombre, mais j'ai envie de dire, c'est le rôle.
Ouais, parfait. Et bien du coup, merci Solène. En tout cas, c'était chouette. J'espère que nos éditeurs auront un regard différent sur ce métier de l'ombre qui est chargé de production audiovisuelle. Bonne continuation à toi et à très bientôt.
À très bientôt, merci.
Merci. En attendant, nous, on se retrouve dans 2 semaines pour découvrir un tout autre métier de l'ombre. Il s'agira d'un métier dont on a forcément déjà entendu parler, mais qu'on ne voit que très rarement, sauf dans un certain cas, et qui permettent un confort indispensable. À dans 2 semaines sur Radio G 101.5 FM. À bientôt, bye.
Radio G.